Si la documentation proto-cananéenne est une documentation relativement pauvre, du moins pour la période qui précède le XVe siècle avant notre ère, en revanche, nous avons la chance de posséder une documentation plus conséquente qui a été découverte dans le Sinaï autour du site de Serabit El-Khadim qui constitue en fait le lieu d'anciennes mines de turquoise des pharaons qui employaient dans ces mines une population probablement de langue sémitique. Et cette population de langue sémitique a gravé sur des objets, mais également sur les parois de quelques-unes des mines et sur les parois de quelques rochers, des inscriptions relativement courtes et souvent très laconiques qui semblent majoritairement relever d'une langue sémitique. Cette documentation date des alentours du XVe siècle avant notre ère. L'objet le plus célèbre reste cette petite sphinge qui se trouve aujourd'hui au British Museum. Elle présente une importance tout à fait considérable par rapport aux autres inscriptions proto-sinaïtiques, puisque en fait elle constitue l'objet qui assez largement a permis le déchiffrement de cette écriture. Cette sphinge en effet possède sur une de ses épaules un texte égyptien et sur son socle de chaque côté du torse deux lignes d'inscription qui sont écrites de manière alphabétique et qui s'interprètent parfaitement. Pour la première, voici le texte égyptien en haut. Voici la première ligne sur l'un des côtés, côté droit de la sphinge, en écriture alphabétique. Voici le second. Et il est tout à fait possible de lire, là aussi, par le biais de la paléographie, donc ces deux inscriptions. La première ligne signifiant « aimé de la Baalat », qui est le nom probablement que l'on donnait à la déesse Hathor dans la région. Déesse Hathor qui est déjà nommée dans le texte égyptien que vous avez aperçu il y a un instant. Et la deuxième ligne, « les Baalat », pour la Baalat, où on retrouve dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire dans la première ligne comme dans la seconde, des critères tout à fait ouest-sémitiques. Entre autres, vous constatez pour la deuxième ligne la présence de la préposition « les » que l'on retrouve par exemple en ougaritique ou que l'on retrouve en phénicien ou que l'on retrouve donc dans un grand nombre de langues sémitiques. Mais l'étape la plus importante, celle qui dépasse de loin, si vous voulez, les quelques lignes que nous révèlent les inscriptions proto-sinaïtiques, reste celle représentée par l'extraordinaire documentation découverte à Ougarit par les équipes archéologiques françaises à partir des années 30 du XXe siècle. Cette documentation ougaritique reste une documentation datable dans une fourchette qui va du XIVe siècle au XIIe, XIIIe siècle avant notre ère. Je l'ai prise de manière assez large, mais on est plutôt recentré aux alentours du XIIIe siècle avant notre ère. Ougarit est un site archéologique situé sur la côte syrienne, non loin de la ville de Latakié. C'est la capitale d'un royaume très important donc de la région et qui nous a révélé, donc comme je le disais, une documentation tout à fait inédite, écrite comme pour les textes suméro-acadiens sur un support argileux, sur une tablette, et au moyen d'un système qui, à première vue, pourrait ressembler à de l'écriture cunéiforme suméro-acadienne, mais qui n'en est rien, qui en tout cas ne fait qu'y ressembler de très loin, puisque Nous avons ici affaire non pas à une écriture syllabo-idéographique, comme c'est le cas pour le babylonien, mais à une écriture alphabétique de forme cunéiforme. Le document qui a permis le déchiffrement de cette écriture est cette petite herminette qui comporte une ligne d'écriture que je retranscris, je translittère sur la première ligne ici et que je rends linguistiquement donc entre deux slashes. Khuratsanu Rabu Kahinima, Khuratsanu, le grand des prêtres. Alors, l'intérêt de cette documentation d'Ougarit, c'est qu'elle nous révèle une nouvelle langue sémitique. Une langue sémitique distincte de celle que l'on a rencontrée jusqu'à maintenant dans le monde ouest sémitique, c'est-à-dire donc distincte de la documentation proto-sinaïtique ou distincte de la documentation proto-cananéenne, voire de l'anthroponymie amorite ou des textes sémitiques dans les textes d'exécration égyptiens. Donc nous avons ici affaire à une documentation qui témoigne d'une langue particulière que l'on appelle l'ougaritique, et cette langue particulière présente des critères relativement proches des langues cananéennes dont on parlera dans un instant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à la différence des autres documentations proto-cananéennes, proto-sinaïtiques ou disons amorites, c'est que ici nous possédons plusieurs centaines de textes rédigés dans cette langue, des textes qui touchent à tous les domaines de la société ougaritique, aussi bien des mythes que des lettres, que des contrats, aussi bien la documentation économique, de quoi se faire une idée relativement précise de cette langue. Par ailleurs, et c'est un aspect tout à fait important, cette langue utilise, je le disais, un système graphique de type alphabétique, consonantique, comme les autres, c'est-à-dire que chaque signe va rendre une consonne, que les voyelles sont laissées à la restitution du lecteur. Mais, par chance, Ougarit reste un creuset linguistique considérable. On y trouve, parallèlement à cette documentation autochtone, des textes rédigés en acadien, dans le système donc syllabo-idéographique de l'acadien. On retrouve également des textes dans d'autres langues. Et l'aspect le plus intéressant pour le linguiste reste que certains textes en langue ougaritique ont été écrits au moyen du système graphique suméro-acadien, ce qui permet par là de se faire une idée beaucoup plus précise du système vocalique qui n'est pas noté par le système graphique de type alphabétique. Donc, grâce à cela, nous avons une assez bonne connaissance de cette langue ougaritique et de ses spécificités linguistiques, ce qui n'est pas possible donc pour les langues que l'on a découvertes à travers de la documentation proto-cananéenne ou proto-sinaïtique. D'un point de vue du système phonologique, l'ougaritique garde un jeu de phonèmes assez large, encore assez proche du sémitique commun. Les différences se font au niveau du da qui passe à sa, le S emphatique, et de la latérale sa qui passe à che. Par ailleurs, les documents témoignent d'un autre phonème que l'on note à défaut par ce S doté d'un accent et qui semble utilisé pour rendre probablement une forme de sifflante qui reste encore à ce jour difficile à définir d'un point de vue phonétique. Ce qui est merveilleux avec Ougarit, c'est que nous ne possédons pas seulement des textes, mais aussi des documents qui ont pris soin de ranger, suivant un ordre bien particulier, les signes de l'écriture alphabétique. Ce sont les premiers abécédaires connus à ce jour. Alors, j'insiste bien sur un aspect, c'est que ce sont des abécédaires. On peut dire que ce sont les premiers abécédaires, mais pas les plus anciennes attestations de l'alphabet. Vous avez très bien vu tout à l'heure que l'alphabet commence à apparaître probablement aux alentours du XXe siècle et des textes comme celui de Wadi El Hol donc, témoignent largement de son utilisation bien avant Ougarit. Mais ici, pour la première fois, nous découvrons les signes qui constituent cette écriture arrangés suivant un ordre bien précis. Et quand vous y regardez de près, vous constatez eh bien, que l'ordre en question n'est rien d'autre que celui que l'on connaît bon an, mal an dans les autres langues sémitiques et qui deviendra même, avec des adaptations, celui de l'alphabet grec, c'est-à-dire notre ordre de l'alphabet. En fait, Ougarit présente deux types d'alphabets. Le premier alphabet que l'on appelle l'alphabet long, qui témoigne d'un système d'écriture qui s'écrit de manière dextrovers, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, exactement comme l'écriture donc française, et qui possède un certain nombre de phonèmes surnuméraires au regard du système phonologique que l'on vient d'apercevoir. Ces signes surnuméraires, outre le S dont on a parlé à la fin de la description du système phonologique, sont trois signes doubles à caractère syllabique qui sont formés du coup de glotte, que l'on appelle le aleph, et d'une voyelle. Le premier, c'est aleph A. Le deuxième, à la dernière ligne de l'alphabet, aleph I et aleph U. Ce qui, en fait, pose concrètement des problèmes quant à la nature même de cet alphabet. On peut se demander, à juste titre, si c'est un véritable alphabet ou, en réalité, si ce n'est pas un syllabaire et où chaque consonne, en fait, serait à doter d'une voyelle contextuelle, c'est-à-dire une des trois grandes voyelles du système sémitique, A, I ou U. À côté de cet alphabet long, dextroverse, nous connaissons un autre type d'alphabet. Celui-ci est réduit quant à son système phonologique, nous allons y revenir, mais tout en utilisant les mêmes signes, les utilise toujours écrits de manière sénestroverse, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Nous possédons relativement peu de ces documents, mais il est intéressant de contextualiser les lieux de découverte à la fois des alphabets longs et des alphabets courts. En fait, quand on étudie la répartition des textes écrits en alphabet long ou en alphabet court, nous constatons que l'alphabet long, ici en rouge, semble être limité quant à son utilisation au niveau du royaume d'Ougarit, et pratiquement qu'à ce niveau-là. En revanche, l'alphabet court, quoique moins bien documenté, semble être d'une utilisation beaucoup plus étendue et couvrir pratiquement tout le Levant, depuis la Syrie jusqu'au Négev. On pourrait même rajouter un petit triangle bleu désignant une découverte d'alphabet court au niveau de Chypre, puisqu'à Chypre, Donc, a été découvert un texte qui semble correspondre plutôt à ce type d'utilisation. Quand nous comparons les deux alphabets, je vous le disais, ce qui saute aux yeux, c'est la réduction du système phonologique. On constate, entre autres, que le signe « he » n'est plus écrit que par « he » et qu'il disparaît de l'alphabet court, de même que le « da » se voit réduit à « da », le « sa » emphatique, le « s » pointé, à « sa », le « t » souligné, le « shin » a une forme de « sein », le « shin » a un « s », excusez-moi, j'ai fait une erreur, donc le « s » pointé a une forme de « sein », le « shin » a un « sa », c'est-à-dire le « t » souligné, le « rein » a un « ein », et que les signes syllabiques Aleph I, Aleph U disparaissent, de même que la consonne sifflante accentuée dont on parlait tout à l'heure, qui semble donc disparaître du système. Alors ce qui est intéressant, c'est que, outre l'aspect graphique, car il s'agit peut-être plus de signes en réalité que de phonèmes, nous constatons que le système s'est réduit et qu'il semble à peu près correspondre à celui que nous retrouvons dans une famille de langues que l'on désigne généralement sous le nom de langue cananéenne. Comme si, en réalité, l'alphabet court se distinguait de l'alphabet long dans son utilisation linguistique, l'alphabet long étant utilisé que pour transcrire de l'ougaritique, alors que l'alphabet court, lui, semble être utilisé pour transcrire une autre langue au système phonologique plus réduit et proche du système cananéen qui englobe, nous allons le voir, l'hébreu, le phénicien et d'autres langues transjordaniennes. Parallèlement à ces spécificités ouest sémitiques, l'acadien continue son évolution. Il ne se limite plus simplement à la zone mésopotamienne et il ne se limite plus uniquement à ces deux grands dialectes que sont l'assyrien et le babylonien, ici autour d'Achour et de Babylone, mais que cet acadien se voit utilisé à titre de langue de chancellerie dans les grandes cours de l'Antiquité, donc de l'époque, c'est-à-dire le monde élamite à Suse, à Beysoutoun, ou bien dans le monde anatolien autour des Hittites avec Ratoucha. On le voit parler également donc dans la zone trans-anatolienne, syro-anatolienne, on le trouve du côté du lac de Vannes, sur toute la côte levantine et y compris sur l'Égypte, puisque, comme vous allez le voir, les pharaons ont conversé de chancellerie à chancellerie au moyen de cette langue qui était l'acadien et non pas l'égyptien. L'égyptien, en fait, était une langue pour eux trop sacrée pour pouvoir être parlée hors de l'Égypte. Par conséquent, et certainement pour des facilités également purement linguistiques, ils ont utilisé la grande langue véhiculaire de l'époque, l'acadien, pour donc communiquer avec les rois telés qui étaient sous la dépendance de leur empire. Et cette documentation est arrivé jusqu'à la capitale El Amarna, c'est-à-dire la capitale du pharaon Akhenaton, et où donc de son père, le pharaon Amenophis III. Et grâce à cette documentation, nous avons une information de base extrêmement importante sur la vie des cours et la vie politique de l'époque, en particulier au niveau du levant. En fait, tous les petits roitelets de Byblos, de Jérusalem, des cités de la côte levantine, qui étaient sous la tutelle politique du pharaon, écrivaient au pharaon donc, en acadien et soulevaient des problèmes ou venaient lui demander de l'aide. Et vous allez voir que cette documentation est d'une importance tout à fait considérable d'un point de vue linguistique. Donc l'acadien connaît un essor, c'est en quelque sorte l'anglais de l'époque, donc parlé par toutes les grandes chancelleries et utilisant comme système graphique toujours l'écriture cunéiforme et d'un autre côté donc toujours sur le même support, à savoir les tablettes d'argile. Alors, attardons-nous sur cette documentation d'El-Amarna. Je vous l'ai dit, c'est une documentation donc écrite en acadien, au moyen du système cunéiforme, mais quand on y regarde de près, on constate que l'acadien en question est extrêmement fautif. Il est fautif dans la mesure où il se trouve très fortement teinté de spécificités ouest-sémitiques. Il n'y a plus là simplement un acadien pur comme on peut le trouver dans la zone centrale de la Mésopotamie, on voit un acadien donc transformé, métamorphosé par son contact avec les langues locales du Levant, celles des royaumes de Byblos, de Jérusalem, d'Alep ou d'autres grandes cités de la région. Parfois même, la chose devient incompréhensible pour les locuteurs même qui sont concernés par cette documentation, et les scribes ont trouvé la nécessité de préciser le mot acadien par une glose dans la langue ouest-sémitique qui était la leur. Donc, à côté du mot acadien, ils vont mettre un petit clou cunéiforme en travers qui va en quelque sorte signifier « Attention, je vais expliquer dans ma langue ce que signifie ce mot acadien. » Grâce à cela, c'est-à-dire à ce que nous appelons les gloses, mais aussi grâce aux transformations de cet acadien par les langues locales, nous pouvons nous faire une idée de cette langue du Levant qui est très fortement donc déjà une langue à caractère cananéen. Alors voici un exemple de ces tablettes. Vous avez ici une tablette recto-verso et on voit alors s'étendant de manière assez atypique de chaque côté de la tablette, comme si nous avions tourné la tablette de cette manière-là, eh bien nous voyons ici deux lignes d'écriture que je vais souligner. Et ces deux lignes d'écriture sont deux exemples typiques de ces pratiques de glose. Les voici. D'un côté, alors voici le clou qui va indiquer la séparation entre le mot acadien et le mot cananéen. En bleu, le mot acadien. Ici, enfin le syntagme acadien, ici, ina pante, donc sur la poitrine, qui est traduit par Batnouma, qui signifie exactement la même chose en cananéen. De la même manière, la ligne suivante. Où nous trouvons l'expression Utsiruma, qui signifie le dos, qui est traduit par Tsuhru, donc qui signifie la même chose dans la langue cananéenne. Donc chaque fois, le scribe précise dans sa langue le mot acadien qui est ici donc transcrit en bleu. Et c'est très intéressant, vous imaginez, puisque lorsque cette documentation qui est relativement importante, nous possédons à peu près 400 tablettes donc trouvées à El-Amarna, eh bien, lorsqu'on rassemble toutes ces gloses et quand on étudie également l'influence donc des langues locales sur l'acadien, on peut se faire une idée relativement précise de ces langues locales, mais également d'un phénomène de contact de langue, puisque la langue acadienne qui en ressort reste une sorte de sabir acado-cananéen qui ressemble en quelque sorte à une nouvelle langue, qui forme en quelque sorte une nouvelle langue. La période suivante, c'est la période de l'âge du fer. Je l'ai ici englobé sur ces trois phases, c'est-à-dire du fer 1 au fer 3, qui englobe en gros une période allant de 1200 à 300 avant notre ère. Cette période, c'est la période d'essor des langues cananéennes. Alors ces langues cananéennes constituent presque un sous-groupe. Donc elles sont relativement bien différenciables, donc on peut s'en faire une idée, et elles sont intéressantes puisque elles vont donner naissance à une documentation très importante comme la documentation biblique à travers l'hébreu, bien entendu. Alors, ces langues cananéennes sont, en fait, regroupent, ce groupe cananéen regroupe tout d'abord ce que nous appelons le phénicien, parlé ici sur la côte libanaise, l'hébreu, de l'autre côté du Jourdain, au niveau actuel d'Amman, la capitale jordanienne, l'ammonite. Au-dessous, autour de la ville de Kérak, le moabite. Et en tampon, que j'ai élargi pratiquement jusqu'à la Méditerranée, sans être tout à fait convaincu qu'il faille aller aussi loin que ça, une langue que nous appelons l'édomite. Je rappelle à titre de précision que l'araméen dont nous parlerons tout à l'heure ne peut pas être rangé dans la catégorie des langues cananéennes, comme on le fait ou comme on le dit parfois. Le statut du groupe cananéen reste en revanche tout à fait problématique par rapport à l'ougaritique. On ne sait pas très bien comment ranger l'ougaritique. Ma conviction, c'est que l'ougaritique constitue une langue proche des langues cananéennes, mais ne doit pas être rangée dans ce groupe-là. Donc je vais maintenant regarder avec vous l'ensemble de ces langues que sont le phénicien, l'hébreu, l'ammonite, le moabite et l'édomite. L'ensemble de ces langues partagent un système phonologique relativement commun. Si nous partons ici du système sémitique commun, nous constatons, premièrement, que le tha se réduit à shin, que le ra se réduit à ha, le tha se réduit à sa, le va se réduit à za, le Rhein se réduit à Ein, le Da se réduit à Sa, pardon, et la seule différence que nous allons trouver d'un point de vue phonologique entre ces langues, ça reste le statut très particulier de la latérale S avec l'accent, donc celle qui se trouve entre le S et le Shin. Hein, ici, je vais la montrer avec alors évidemment, ça ne veut pas marcher. Bon, peu importe. Donc, on parle de celle-là. Donc, que l'on va retrouver en hébreu et dont on n'est pas sûr du statut pour les autres langues sémitiques, du phénicien au moabite, en passant par l'édomite et l'ammonite. D'un point de vue morphologique, ces langues cananéennes sont caractérisées par un certain nombre de traits. Le premier de ces traits, c'est l'existence d'un article préfixé, donc écrit au moyen de la lettre ha, et qui sert à exprimer la détermination. Il faut savoir que ce trait est un trait qui n'existe pas en araméen, puisque l'araméen va marquer la détermination d'une manière différente. D'autre part, nous constatons que le halon se transforme en holon en position accentuée. C'est d'ailleurs une des caractéristiques les plus importantes qu'on appelle la mutation cananéenne. Que le suffixe de première personne du singulier des verbes à l'accompli passe de tout à ti. Or, c'est un processus qui existe peut-être déjà en ougaritique, mais qui est donc une réalité tout à fait générale pour les langues cananéennes. Et d'autre part, nous constatons que au niveau du système verbal, la voyelle qui se trouve après la marque personnelle préfixée présente un phénomène de dissimulation que l'on appelle donc traditionnellement la loi de Barthes-Ginsberg, faisant d'une forme yactale dans les formes anciennes une forme yictale pour les langues cananéennes. Ce sont quatre des traits principaux que l'on va retrouver de manière quasi systématique dans l'ensemble de cette documentation. Alors il faut tout de même dire une chose, c'est que notre connaissance des langues cananéennes reste relativement sujette à caution. Et cela pour une raison très simple, c'est que les langues cananéennes utilisent toutes un système d'écriture qui est celui du phénicien, et ce système d'écriture est un système qui ne note que des consonnes. Donc nous ne connaissons les voyelles que lorsque ces mots, ou que ces phrases, ou que ces noms ont été notés dans d'autres systèmes d'écriture, comme l'acadien, hein, comme le système cunéiforme, et qui nous permet de nous faire une idée. Ça, c'est le premier point. Par ailleurs, il faut reconnaître que nous ne possédons parfois que très très peu de documents pour témoigner de ces langues comme l'édomite, le moabite ou l'ammonite. Si l'hébreu et le phénicien restent relativement bien documentés, il faut tout de même convenir que les autres ne sont attestés parfois que par un ou deux documents, ce qui reste relativement pauvre pour se faire une idée du système linguistique. Alors, parmi ces langues cananéennes, le premier groupe que nous allons retenir, c'est celui des langues phéniciennes et hébraïques que j'ai rassemblées ici sous le terme de phénico-palestiniennes. Commençons par l'hébreu, par le phénicien. Le phénicien, c'est une langue qui nous est relativement bien connue. Elle est attestée par 5 à 6 000 inscriptions. Malheureusement, ces inscriptions qui s'échelonnent dans le temps entre la fin du deuxième millénaire et les premiers siècles de notre ère constituent des documents relativement courts. Donc, très très peu d'inscriptions dépassent la ligne encore moins d'inscriptions dépassent les deux ou trois lignes. On doit pouvoir compter sur à peu près une cinquantaine d'inscriptions de plus de trois lignes, en tout et pour tout dans le corpus, ce qui est relativement faible. Ce qui est en revanche intéressant, c'est la variété de cette documentation et son étendue dans le temps. Alors, bien sûr, le phénicien a pour zone principale le Liban actuel, avec trois grandes cités qui vont retenir notre attention, Byblos, Tyr et Sidon. Trois des grandes capitales de ce monde phénicien. Je grossis la carte et je retrouve mes trois grandes cités, Byblos, Sidon, Tyr, et je rajoute à cet ensemble une île qui se trouve au large de la ville actuelle de Tartous, en Syrie, qui s'appelle Arwad ou Arvad. En fait, quand on regarde la documentation phénicienne, nous pouvons constater qu'elle est faite en gros de trois grandes langues. On a toujours tendance un peu à considérer le phénicien comme un élément monolithique. En réalité, le phénicien possède probablement trois grands dialectes. Le dialecte d'Arvad, relativement peu documenté, celui de Byblos, qui est le plus distinct des trois et qui par ailleurs est le mieux documenté dans le temps, et enfin celui des villes de Tyr et Sidon. À titre d'exemple, voici quelques documents en phénicien. Parmi les plus anciens documents à notre disposition, existent ces petites pointes de flèches comportant le nom de leur propriétaire. Vous en avez ici trois exemples. Voici l'une des plus célèbres redessinées, qui comporte dans la première ligne le mot Hets, qui signifie flèche, et il est suivi du nom du propriétaire, Zakhar Baal, dont on nous précise sa fonction et sa titulature au revers de la flèche, puisqu'il est désigné comme Milk, le roi de Hamour. Donc, on voit donc ici un bel exemple de l'alphabet phénicien, avec l'existence d'un séparateur de mots que vous trouvez à cet endroit-là entre le mot milk et le mot amourou. Donc, avec une tentative de séparation des mots. Alors, ce phénomène, ce type de signe existe pour des périodes plus anciennes, en particulier en proto-cananéen, mais aussi en ougaritique. On le voit ici utilisé dans le cadre du phénicien. Voici la traduction. Flèche de Zakhar Baal, roi d'Amour. Donc ça, ce sont parmi les plus anciens documents. Il est difficile de dater ces pointes de flèche dans la mesure où elles n'ont presque jamais été retrouvées en contexte archéologique, mais les critères paléographiques semblent pouvoir nous permettre de donner comme disons, échelle chronologique, celle du XIIe siècle avant notre ère. Pour illustrer le dialecte giblite, dont je disais tout à l'heure qu'il était certainement le dialecte le plus différencié des autres dialectes phéniciens, c'est-à-dire celui parlé à Byblos, qui était donc appelé dans l'Antiquité Goubla ou Gibla ou quelque chose dans ce genre-là, ou Goublou. Donc, le document le plus représentatif de ce dialecte reste le très célèbre sarcophage d'Aïram, qui comporte deux lignes d'inscription. Le début de cette inscription sur le petit côté de la cuve du sarcophage. Le deuxième, sur le couvercle, c'est la suite, sur le couvercle du sarcophage. Il s'agit d'une inscription qui a été rédigée sur un sarcophage probablement de réemploi, et on peut estimer, à nouveau sur des bases paléographiques, que le texte date des alentours du XIe siècle avant notre ère. En voici un dessin. Le texte est un texte relativement courant. Il nous précise que ce sarcophage a été réalisé par Itobaal pour Aïram, son père, et la suite du texte précise que toute personne ayant pour intention d'ouvrir le sarcophage et de piller son contenu, eh bien, donc sera maudit pour le reste de sa descendance et le reste des temps. Donc un type d'inscription relativement commun. Alors, on pourrait montrer d'autres exemples du giblite. Celui-ci me semble le plus représentatif et probablement le plus ancien. À côté de cela, il existe peut-être un document un peu plus ancien, mais en tout cas, c'est certainement le plus célèbre et le mieux connu de tout un chacun. À côté de ce dialecte giblite, je parlais tout à l'heure du dialecte de Tyr et Sidon. Le plus bel exemple de cette langue nous est donné par le texte écrit sur le sarcophage égyptien dit d'Eshmounazor. Donc c'est une longue inscription, une des plus longues que nous connaissions. Donc vous voyez toujours le même type d'écriture. C'est une inscription, une langue que l'on peut dater des environs du 6e siècle avant notre ère, donc bien sûr un peu plus tardive que l'inscription du sarcophage d'Aïram, qui témoigne donc de certaines spécificités linguistiques distinctes du reste des dialectes phéniciens, surtout par le système vocalique que nous connaissons toujours de la même manière, par les citations ou par l'emploi de ces termes dans d'autres systèmes d'écriture. Ce dialecte de Tyr et Sidon, du fait même de l'essor économique de ces deux cités, va connaître une expansion sur toute la Méditerranée. Cette expansion va toucher Chypre, la Cilicie, la Grèce, la Crète, la Sicile, l'Italie, la Sardaigne, le Maghreb avec la Libye et l'Algérie, bien sûr la Tunisie avec une langue qui va se spécifier dans cette région que l'on appelle le Punique, et l'Espagne. Je vous ai donné ici, simplement à titre d'illustration, quelques-unes de ces inscriptions qui témoignent de l'usage du phénicien hors de la zone libanaise. Vous avez, par exemple, en Cilicie, l'inscription de Kilamoua. Vous avez les célèbres plaquettes d'or de Pirgi qui sont écrites à la fois en phénicien mais aussi en étrusque, ou la célèbre et très controversée quant à sa traduction, stèle de Nora. J'aurais pu vous en montrer beaucoup d'autres, surtout dans le cadre du monde punique. Il s'agit simplement d'illustrations générales de l'ensemble. Ce punique, donc, qui est la langue des Carthaginois, donc, c'est-à-dire des Phéniciens implantés en Africa, dans la Tunisie actuelle, va se distinguer d'un point de vue morphologique, d'un point de vue phonologique du phénicien de Tyr et Sidon pour devenir une véritable langue. Il est attesté sur une durée très importante puisque on connaît des attestations du Punique à partir du 9e siècle avant notre ère et l'on possède des textes qui vont jusqu'au 2e et peut-être même si l'on considère certaines allusions dans les textes de saint Augustin, on peut estimer que le punique a été parlé pratiquement jusqu'au 5e siècle de notre ère. Je vous rappelle que cette langue nous est aussi très très bien connue grâce à un passage d'une pièce de Plaut qui s'appelle Poenolus. Et dans cette pièce de Plaut, toute une partie, plusieurs dizaines de lignes, sont écrites en punique au moyen de l'alphabet latin. Et par chance, nous possédons ici non seulement les consonnes, mais aussi les voyelles, ce qui est une information très importante pour la connaissance donc du système phonologique et morphologique du punique, bien entendu, et du phénicien en particulier. La stèle que vous apercevez sous les yeux constitue certainement un des textes les plus longs connus à ce jour. C'est un texte qui a été étrangement découvert à Marseille. C'est ce qu'on appelle le Tarif de Carthage. On ne connaît pas très bien les conditions de son arrivée à Marseille. Probablement était-il utilisé comme pierre de lest dans un bateau en provenance de Carthage qui a été abandonné à Marseille et plus tard réutilisé dans une construction. La stèle a été retrouvée au XIXe siècle dans le quartier du Panier au moment de la construction de la cathédrale. Donc c'est un texte très intéressant d'un point de vue historique, d'un point de vue linguistique, mais aussi d'un point de vue religieux, puisqu'il est question de tarifs sacrificiels employés dans les temples de Carthage. Notre exemple de cette langue punique et de son association avec le latin est cette stèle trouvée en Sardaigne, à Sulcis, qui date du 1er siècle avant notre ère, qui comporte dans sa partie supérieure les vestiges de trois lignes de texte en latin, sous lesquelles se trouvent quatre lignes rédigées au moyen de l'écriture néo-punique, qui est une évolution du système d'écriture que vous avez aperçu tout à l'heure avec le phénicien. Passons maintenant à l'hébreu. Alors, je n'ai pas indiqué de date, puisque, évidemment, l'hébreu a un statut tout à fait particulier. Les plus anciennes attestations remontent probablement aux alentours du Xe siècle avant notre ère. Certains la font remonter un tout petit peu plus tôt, mais dans tous les cas, il connaît un essor jusqu'à aujourd'hui avec son utilisation dans le cadre donc, de l'État d'Israël aujourd'hui. Cela dit, il faut quand même reconnaître qu'il y a un véritable hiatus entre l'hébreu ancien et l'hébreu actuel, puisque l'hébreu actuel est une reconstitution du XIXe siècle sur une langue rabbinique qui avait été pratiquement donc abandonnée comme langue véhiculaire depuis très longtemps. Il faut savoir que probablement, à quelques exceptions près, les lettres de Bar Korba par exemple, l'hébreu n'a plus été parlé dans la région à partir du 3e siècle avant notre ère, ce qui fait donc que cette langue est une langue morte dès l'Antiquité, ressuscitée dans le monde moderne. Alors l'hébreu, comme le phénicien, est une langue qu'il faut envisager d'un point de vue dialectal. Il existe plusieurs dialectes de l'hébreu. On peut dire, pour simplifier, qu'il existe un hébreu septentrional, parlé autour de la zone de Samarie, c'est ce que l'on appelle donc parfois l'hébreu samaritain, qu'il ne faut pas confondre avec l'araméen samaritain ou le samaritain proprement dit, et puis la langue du sud, le dialecte du sud, que l'on appelle l'hébreu judéen, qui est celui de Jérusalem ou des Ostracas de Lachish. Alors, les plus anciennes attestations de l'hébreu sont relativement pauvres, puisque à ce jour, le plus ancien document que nous connaissions reste ce que l'on appelle le calendrier de Gezer. C'est un document qui date probablement des alentours du Xe siècle avant notre ère. Il comporte quelques lignes d'une écriture qui est issue de l'écriture phénicienne, que je surligne ici pour vous, et qui en fait attribue à chacun des mois une spécificité agricole, c'est-à-dire le mois des semailles, le mois de telle et telle récolte. Le texte est donc relativement bien compris, bien qu'il possède un certain nombre d'imprécisions encore réelles à ce jour. Parallèlement à ce document de Gezer, nous retrouvons quelques-uns des documents les plus connus de la paléographie hébraïque. J'entends l'inscription du tunnel de Siloé, qui date des alentours de 700 avant notre ère. C'est un document qui relate l'événement du percement de ce tunnel à Jérusalem et du moment où les deux équipes qui creusaient le tunnel se sont rencontrées pour finir le percement en question. Donc le texte est rédigé au moyen de la belle écriture hébraïque de l'époque, qui, vous le voyez, est une écriture très proche du phénicien, qui présente des spécificités paléographiques très très nettes, mais donc qui n'est pas encore l'écriture que nous attribuons aujourd'hui à l'hébreu, que l'on appelle l'hébreu carré, qui en réalité est une écriture araméenne. Parmi la documentation hébraïque, on peut également mentionner les ostracas de Lachish, très célèbres dans la mesure où ils témoignent justement d'un des dialectes de l'hébreu, le dialecte méridional qui s'oppose à celui de Samarie. Ici, une lettre datant du VIe siècle avant notre ère, dont je relève ici la paléographie. Et je pourrais rajouter à cette documentation, bien sûr, la documentation biblique. Alors, cette documentation biblique pour l'Antiquité, nous est relativement peu documentée. Le plus ancien document que nous connaissions à ce jour, ce sont des petites plaquettes d'argent comportant donc quelques lignes qui se réfèrent au texte biblique et qui sont écrites toujours au moyen de cette belle cursive paléo-hébraïque issue du phénicien. Et si je vais beaucoup plus loin dans le temps, c'est-à-dire aux alentours du IIIe siècle avant notre ère, il y a bien entendu l'écriture et les textes issus des manuscrits de la Mer Morte, avec ici un des passages de la Bible écrit sur parchemin, où vous voyez apparaître une écriture qui est déjà proche de celle que l'on connaît et que l'on désigne sous l'écriture carrée de l'hébreu. Parallèlement à cette famille, donc faite du phénicien et de l'hébreu, existe tout un ensemble de langues parlées de l'autre côté du Jourdain. Ce sont des langues que l'on appelle traditionnellement transjordaniennes. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque nous avons observé la carte, que l'on pouvait en fait retrouver trois types de langues. Premièrement, l'ammonite, le moabite et l'édomite. L'ensemble de ces langues, il faut le reconnaître, sont très très peu documentées, ce qui en fait des langues relativement peu connues à ce jour. Une exception doit être faite, c'est le moabite qui, par chance, nous est mieux connu grâce à la célèbre stèle de Mécha dont je vais reparler. L'ammonite est essentiellement connu grâce à cette grande inscription qu'on appelle l'inscription de la citadelle d'Aman, ainsi que celle de la petite bouteille de Tel Siran. L'une et l'autre sont à dater des environs du 9e ou du 8e siècle avant notre ère. L'écriture est une écriture toujours donc issue du phénicien. On y retrouve des proximités avec l'utilisation de cette écriture phénicienne par les Araméens. Et il faut reconnaître que, hors de ces deux grands documents, toutes les autres inscriptions en ammonite sont très très peu connues et se limitent à tout juste une petite dizaine et à quelques sceaux. Donc la bouteille de Tel Siran, dont voici un dessin. Cet ostracone provenant de la ville d'Eshbon, qui date des alentours du 8e et du 7e siècle. Je surligne ici d'un point de vue épigraphique. Le Moabite, connu essentiellement par la célèbre stèle de Mécha, aujourd'hui exposée au musée du Louvre, qui date de la seconde moitié du 9e siècle, une longue inscription qui commémore les faits du roi Mécha, roi de Moab, d'où le nom de Moabite, et l'Édomite, qui est certainement des langues transjordaniennes la moins bien connue de toutes, puisque, à part quelques références qui font allusion à des divinités spécifiques du royaume d'Idom, ou bien à des problèmes de paléographie, le seul vrai document, le seul et unique vrai document qui puisse être retenu comme document écrit en langue édomite, du moins intelligible pour nous de ce point de vue, c'est l'Ostrakon d'Horvat Husa, qui date de la fin du 7e siècle avant notre ère, que je rehausse ici à nouveau. À partir de là commence une autre partie des langues sémitiques que l'on appelle le groupe cananéen. Et c'est ce groupe cananéen que nous verrons la prochaine fois. Voilà.